Nous lisons ce matin dans la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse, au chapitre 3, les versets 14 à 21, et je lis dans la traduction de la Nouvelle Bible Second. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire, dans l'Église, et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, et à tout jamais. Amen. J'ai choisi ce texte parce que dans la pensée de l'apôtre Paul, il souligne des choses importantes et parce que je le trouve adapté dans ce temps troublé et incertain que nous traversons dans notre pays, de manière générale, depuis l'apparition du Covid. La prière que nous avons lue termine la première partie de l'épître qui va du chapitre 1 au chapitre 3 inclus. C'est essentiellement trois chapitres où Paul décrit l'œuvre de Dieu, d'abord au niveau individuel, puis il précise les dimensions collectives du salut. Le salut qui non seulement nous met au bénéfice de la grâce de Dieu, mais qui de plus nous réconcilie avec tous ceux qui font la même expérience du salut en Jésus. La prière que nous avons lue clôture cette première partie de l'épître, mais en même temps, elle ouvre au chapitre suivant, 4 à 6, dans lesquels Paul va donner une série d'exhortations sur la manière de vivre la foi. Alors, le thème central de cette prière, c'est d'être fortifié intérieurement. Jésus, en nous sauvant, ne veut pas seulement nous promettre le pardon et l'impunité au jour du jugement, mais il veut aussi, il nous conduit sur une nouvelle manière de vivre. Et cette nouvelle manière de vivre, elle part de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu veut travailler notre être profond pour modifier nos manières de vivre. Nous sommes, nous les humains, des êtres à la fois d'extériorité et d'intériorité. Nous avons besoin d'extérioriser, d'exprimer ce que nous sommes, d'exprimer ce qui nous habite, nos pensées, nos sentiments, ou nos désirs. Nous sommes aussi des êtres d'intériorité, de profondeur, et nous avons besoin tous d'être renouvelés et fortifiés dans notre être intérieur, car nous avons tous été blessés plus ou moins profondément dans notre vie, de par nos relations avec les autres, par le mal que nous avons subi, par le mal que nous avons commis, et aussi plus mystérieusement, le fait d'avoir vécu éloigné de Dieu avant de le connaître, le fait d'avoir vécu loin de la vraie source de vie nous a aussi blessés quelque part. Nous sommes donc des êtres marqués par la fragilité et par l'inquiétude, par la peur. Premier sentiment d'Adam et Ève, une fois qu'ils ont désobéi à Dieu. Nous sommes marqués donc par la fragilité et l'inquiétude, nous sommes marqués par la tentation du mal et par un certain égocentrisme. Nous le sommes de manière diverse et chacun l'est de façon très personnelle, ce qui complique un peu les choses, parce que si on était tous de la même manière, on pourrait mieux s'entendre, mais il faut s'accueillir dans cette diversité de nos parcours de vie avec cette partie blessée de notre vie. Dieu veut travailler notre être intérieur, il veut l'apaiser, il veut le purifier, pour que nous puissions mieux marcher en disciples de Jésus, et cela d'une façon authentique et profonde. Dieu veut travailler notre être intérieur, mais pour cela, il faut notre accord, un accord régulièrement renouvelé. Dieu n'agira pas en nous sans notre désir, sans notre assentiment. Le travail au niveau de l'être intérieur prend du temps. Parce que nous, les humains, nous sommes des êtres de profondeur et pas de surface seulement. Et ce travail, si nous voulons que Dieu te fasse ce travail en nous, cela sollicite notre persévérance dans la prière et un certain nombre d'efforts à faire pour avancer sur ce chemin. Quand nous sommes devenus chrétiens, des choses profondes ont changé en nous. Mais c'est qu'un début. Il s'agit ensuite de persévérer pour que ce changement se poursuive. Or, nous sommes tentés de diverses manières de laisser, tomber ce combat pour le changement intérieur à un moment donné de notre vie. Par exemple, on se convertit, on bouge, beaucoup de choses remuent en nous, on rejoint une église, on apprend, on voit comment vivent les autres, on atteint le niveau moyen de la vie spirituelle des chrétiens, et d'un coup on s'arrête. Parce qu'il y a une pression de groupe, parce qu'on n'est pas forcément enseigné ou encouragé à aller au-delà. On adopte un style de vie extérieur, et parfois c'est déconnecté en partie au moins de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Or la déconnexion entre l'intérieur et l'extérieur, c'est dans la Bible une des formes que prend l'hypocrisie. Autre remarque, nous sommes dans une civilisation qui privilégie l'extériorité. Vous l'avez tous remarqué ça, hein ? On doit se montrer, on doit se mettre en avant dans les réseaux sociaux, on doit s'exhiber même. Récemment, nous avons été frappés de voir qu'une personne de notre famille, enceinte, et je ne parle pas d'Elisabeth, a envoyé des photos de son ventre nu rond à Facebook, tout le monde pouvait le voir. On a dit, tiens, ça c'est pas un truc qu'on aurait fait, nous. Hein. Mais voilà, on est sous la pression de se montrer, on est sous la pression d'envoyer des photos de toutes sortes, de parler de ce qu'on fait jour après jour, que ce soit intéressant ou pas pour les autres. Bref, on est sous une pression qui favorise et qui met en avant l'extériorité. Être vu et reconnu le plus possible par les autres est un commandement de notre société. Cela peut influencer notre forme de piété, notre compréhension de la piété, de la foi, et parfois au détriment de notre intériorité spirituelle. Je redis que l'approfondissement de notre foi vers plus de profondeur et d'authenticité dépend de notre désir, de notre volonté réelle de suivre Jésus et de continuer à être transformé par lui, pour pouvoir vivre comme il le demande. Parce que, je ne vous apprends rien, quand nous lisons la parole de Dieu, pour peu qu'on soit un peu lucide, on voit bien que ressortent de nous un certain nombre de résistances. C'est pas si simple de faire ce que Jésus nous demande. La parole de Dieu ne tombe pas sur une terre vierge, elle tombe sur une terre où il y a déjà plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Et donc il y a des résistances, des peurs, des inquiétudes, des colères, que sais-je encore, parfois profondément installées, et dont on ne se débarrasse pas si facilement. Nous ressentons notre fragilité, nos blocages, nos difficultés à aimer ou à pardonner. Telle ou telle expérience ou telle situation révèle des peurs, des replis, des refus. Et si on n'est pas dans cette marche avec Jésus, pour mieux le suivre, on peut devenir progressivement aveugle sur nous-mêmes, et on peut se figer d'une certaine manière dans notre vie spirituelle. Paul a le souci, quand il écrit ses lettres, que les chrétiens grandissent dans la foi et l'obéissance. Et ici, dans notre texte, il prie pour que les Éphésiens soient rendus forts et puissants dans l'homme intérieur. Dieu veut qu'il y ait des changements suffisamment en profondeur pour nous, pour que nous suivions réellement le Christ de tout notre cœur, et que nous puissions faire face aux difficultés de la vie de disciples et de la vie tout court. Être fortifié intérieurement et connoté dans Éphésiens 3 a plusieurs dynamiques. D'abord, l'action du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous changer intérieurement nous-mêmes, mais l'esprit le peut. Nous ne pouvons pas nous décider par nous-mêmes d'être fortifiés comme ça, mais l'esprit peut nous fortifier. C'est ce qui fait que l'évangile est bien plus qu'un discours généreux de plus, bien plus qu'une utopie parmi d'autres. C'est une puissance. Rappelez-vous, hein, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance. C'est une puissance car l'évangile provoque réellement des changements intérieurs. C'est d'ailleurs ainsi qu'est décrit, dans le chef des prophètes, la nouvelle alliance que Dieu fera avec le Messie. Des versets qu'on connaît par cœur, Jérémie 31, verset 33, « Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. » Déclaration du Seigneur. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. » D'accord ? Plus seulement sur les tablettes, mais dans le cœur même. Donc il y a un travail d'intériorité. Ézéchiel 36, versets 26 à 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et les mettiez en pratique. Le cœur ici, c'est pas le sentiment, c'est pas le siège des sentiments comme chez nous. Le cœur, c'est la façon dont les Hébreux parlent de l'intériorité, de l'être intérieur dans toute sa diversité. Et donc l'esprit de Dieu, la nouvelle alliance a ça de particulier que par le travail de l'esprit, il y a une transformation de l'intériorité des humains. Pas seulement une loi qui extérieurement nous parvient, par la lecture ou par l'écoute, mais quelque chose qui travaille en nous. C'est d'ailleurs, si vous vous rappelez, quand Jean-Baptiste compare son ministère à celui de Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Moi, je vous baptise d'eau. » Je vous mouille un peu de flotte sur la tête. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, qui aura une action en nous. Donc ça, c'est le premier point, le premier aspect de ce changement. Du fait d'être fortifié intérieurement. C'est l'action de l'Esprit. La deuxième dynamique, on parle de texte, c'est l'habitation du Christ en nous par la foi. Le Nouveau Testament dit à plusieurs reprises que Jésus habite en nous. La vitalité de cette présence en nous dépend de notre investissement personnel dans la relation à Jésus. Jésus dit ça très bien dans Apocalypse 3:20, « Je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, qu'est-ce qu'il fait ? Il entre chez lui. Il dîne avec lui, donc ça prend un certain temps. C'est pas juste « bonjour, au revoir ». Et lui avec moi, il y a la communion. Le repas, c'est la communion, hein, comme la Sainte Cène. Vous vous souvenez de ça ? La présence du Christ en nous, la vitalité de cette présence, dépend de notre investissement personnel. Nous avons à cultiver notre relation à Jésus pour être fortifiés intérieurement et marcher dans une plus grande fidélité. Cultiver la relation à Jésus a pour conséquence d'approfondir notre expérience de l'amour que Dieu a pour nous. Parce que Jésus est la preuve de l'amour de Dieu pour nous. La preuve de l'amour de Dieu pour nous. Pas seulement parce qu'il est mort pour nous, c'est évidemment beaucoup ça, mais aussi parce qu'il a vécu d'une certaine manière pour nous apprendre ce qu'est la vie selon Dieu. Il a été pour nous un modèle, c'est un peu le thème de ce culte. Il a vécu pour nous et non pas pour lui. Il a fait des choix en fonction de nous et non pas en fonction de son bien-être personnel. Donc, verset 17, que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Alors, cette expérience de l'amour de Dieu nous rend capables de, petit à petit, mieux comprendre l'incroyable richesse de l'amour de Dieu. L'expérience spirituelle va au-delà d'une simple compréhension intellectuelle, mais en même temps, l'expérience inclut notre intelligence, une intelligence renouvelée. Il s'agit de devenir capable de comprendre de mieux en mieux l'amour de Dieu avec cette formulation paradoxale de Paul au verset 19. Connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Vous voyez ? Connaître quelque chose qui surpasse la connaissance. Donc il y a quelque chose qui est lié à la compréhension. On n'est pas aveugle, on n'est pas entraîné de manière passive, mais en même temps, cette connaissance, elle n'est pas suffisante. Ce qui nous amène à la quatrième dynamique présente dans le texte, c'est l'amour. Dans la Bible, l'amour est la clé de tout. L'amour est ce qui habite Dieu et le pousse à nous sauver. L'amour est ce qui habite Dieu et le pousse à nous sauver. Et à construire une communion forte avec chacun de nous. Car Dieu a tant aimé le monde, et ça a amené tout le reste. Tout le reste. Déjà la création, mais aussi évidemment le salut. La foi chrétienne, ce n'est pas de croire que Dieu existe, mais que Dieu nous aime. La foi chrétienne, ce n'est pas de croire que Dieu existe. Des tas de gens croient ça. Le diable croit ça, d'ailleurs, dit Jacques. C'est de croire qu'il nous aime. C'est là qu'est la différence. Et qu'il nous appelle à l'aimer en retour, et à aimer tous ceux qui sont présents dans notre vie. Alors, ces quatre dynamiques n'excluent évidemment pas du tout les moyens humains que Dieu nous donne. Et d'abord, la vie d'église, la vie fraternelle, les uns avec les autres, la formation, l'accompagnement éventuellement par quelqu'un, pour des périodes plus ou moins longues, faire retraite pour, dans le silence, cultiver sa relation avec le Seigneur, etc., etc. Alors, quel est le fruit d'être fortifié intérieurement ? Quel est le fruit d'être fortifié intérieurement ? Le premier, je voudrais souligner, c'est une confiance inébranlable en Dieu. Une confiance inébranlable en Dieu. Et c'est évidemment un aspect important, surtout quand on vit des périodes stressantes, comme ça peut être le cas aujourd'hui, ou des situations personnelles stressantes, ce qui arrive aussi. Le meilleur exemple que j'ai pu trouver dans le Nouveau Testament, c'est Actes 16, Paul et Silas sont arrêtés. Ils sont condamnés par les juges, ils reçoivent des coups de bâton et ils sont mis en prison. Dans leur mission d'annoncer l'évangile et de témoigner du Christ. Et que font-ils ? Ils prient, ils chantent et louangent Dieu. Envoyés par divers missions, ayant fidèlement accompli la volonté de Dieu, ils ont toute confiance dans le Seigneur que la situation qui est la leur n'est pas catastrophique. Ils ne sont ni abattus ni déprimés, mais ils expriment leur confiance en Dieu par la prière et le chant. Pareil, la confiance en Dieu, c'est facile, mais c'est surtout intéressant à vivre quand on est dans des périodes compliquées. Je parle avec des chrétiens qui sont légitimement, peuvent être légitimement craintifs par rapport à la situation, par rapport à la maladie, par rapport au vaccin, par rapport au stage encore. Comment est-ce que ces craintes, qui sont encore une fois légitimes, sont vécues dans la perspective de notre confiance en Dieu ? C'est une question. Parfois, on est tellement perturbé intérieurement, c'est difficile de se poser et de traverser avec confiance ce que nous vivons. Nous avons besoin que notre être intérieur soit fortifié pour traverser les moments difficiles et les moments où la crainte est forte en nous. Un deuxième aspect du fait d'être fortifié intérieurement, c'est d'être enraciné dans la parole de Jésus. Chapitre 4 d'Éphésiens, Paul donne le critère de maturité suivant. Il s'agit de ne plus être des tout-petits ballottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par les ruses et les manœuvres des gens. Une stabilité, un enracinement qui nous donne de la stabilité. J'ai rencontré récemment une chrétienne et qui m'a parlé de son parcours. Son père s'est converti dans une église évangélique, il y a déjà quelques dizaines d'années, et dans une église extrêmement conservatrice et moralisante. Et son père l'a poussé à se marier, parce qu'il avait peur que s'il ne se marie pas vite, il y ait un accident dans sa vie conjugale. Et elle l'a poussé alors qu'elle n'était pas prête. Et donc elle a divorcé 5 ans après. Elle était sous l'emprise de ce père, qui, avec beaucoup de versets bibliques, conduisait sa vie, orientait sa vie, dominait sa vie. Elle s'est remariée à peu près dans la même histoire, c'est son père qui l'a poussé à se marier avec quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est une personne qui est instable, et c'est elle qui le dit, et quand elle parle avec des gens, elle est dans une situation d'église où il y a des tensions entre les chrétiens, et elle dit, quand j'entends les uns, je suis avec les uns, quand j'entends les autres, je suis avec les autres, et je ne sais pas comment me situer. Vous voyez ? Elle manque de quelque chose qui fait qu'elle se positionne elle-même par rapport à elle-même. Elle est sous l'influence du discours des uns et des autres. Donc on a parlé de ça un peu. C'est une histoire assez particulière. Et donc son défi, c'est de construire une stabilité intérieure pour que face à diverses figures d'autorité ou divers types de discours, elle puisse se fonder sur la parole de Jésus. Et par exemple, dans sa situation, sur une parole de Jésus qui nous dit de ne pas nous juger les uns les autres, alors que dans l'histoire du conflit, on passe du temps, les uns et les autres passent du temps à se casser les sucres sur les autres. Donc, comment elle peut trouver cette stabilité ? Dans la confiance et dans le fait de s'appuyer sur la parole de Jésus. Quand nous sommes enracinés dans la parole de Jésus, ça a pour conséquence que ça nous libère de la parole des autres. Je vous propose de retenir cela. Si nous sommes enracinés dans la parole de Jésus, eh bien ça nous libère de la parole, d'être soumis trop facilement à la parole des autres. Ensuite, troisième élément, après la confiance inébranlable en Dieu et l'enracinement dans la parole de Jésus, un troisième aspect d'être fortifié intérieurement, c'est la stabilité émotionnelle. Et donc aussi la gestion des peurs. On a un excellent exemple dans le Nouveau Testament qui est l'apôtre Pierre. Vous savez que Pierre, qui en toute franchise et en toute sincérité avait dit à Jésus qu'il mourrait plutôt que de l'abandonner, s'est dégonflé lamentablement et qu'il a renié Jésus. Et quelques mois plus tard, on voit ce même Pierre qui est arrêté avec Jean, ils sont devant le Sanhédrin. Alors le Sanhédrin, c'est quelque chose comme l'Assemblée nationale plus la Cour suprême. Enfin, vous voyez, c'est... avec une dimension religieuse forte, évidemment. Et le Sanhédrin dit à Pierre et à Jean, on vous interdit de parler de Jésus. C'est un peu stressant comme situation, hein, faut pas croire. Et Pierre répond, il se laisse pas déstabiliser cette fois-ci, et il répond, et en plus il répond sur un principe très simple, auquel les autres peuvent difficilement dire non, c'est qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Rappelez de ce passage. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas ressenti le stress, puisqu'une fois qu'ils sont libérés, ils vont convoquer l'Église pour une réunion de prière afin que Dieu les aide à tenir le coup. Donc c'est pas simple, hein, comme situation. Mais il n'empêche qu'ils arrivent à ne pas être emportés par la frousse et à rester stables dans leur foi. Donc, stabilité émotionnelle face à l'opposition. On peut aussi dire, pour notre situation à nous, et de manière générale, stabilité face à l'avenir incertain. Je pense qu'un des éléments de la difficulté actuelle, c'est que nous pensions avoir la maîtrise de l'avenir, nous collectivement, hein, nos sociétés, et que d'un coup, elles n'ont plus. Et là, je n'étais pas prêt. La génération actuelle, hein, n'est pas du tout prêt à ça. Les générations d'avant qui ont connu la guerre, qui ont connu des trucs comme ça, pour eux, ça va, ils savent que c'est pas si, qu'on ne maîtrise pas tout. Mais notre génération a vécu dans l'illusion qu'on maîtrisait les choses, et que c'était à peu près aussi compliqué que d'appuyer sur des boutons d'ordinateur. Ben non. Mais ça a fait que c'est très compliqué à vivre. Et donc, comment vivons-nous, nous ici, la non-maîtrise des événements ? Est-ce que nous acceptons cette non-maîtrise dans la confiance en Dieu ? Ou est-ce que nous sommes angoissés ? Comment vivons-nous l'ignorance de la suite ? Comment vivons-nous le fait qu'on ne sait pas comment ni quand ça va finir ? Parce qu'il y a de l'usure, hein, ça se traîne, c'est usant. Comment réagissons-nous à la peur et au stress de certaines personnes autour de nous qui sont emportées par leurs sentiments négatifs ? Certains avec des discours plus ou moins complotistes, d'autres avec autre chose, mais on sent que ça circule la peur autour de nous. Comment on réagit ? Est-ce qu'on est emporté ou pas ? Est-ce qu'on arrive à être stable ? L'apôtre Jean écrit dans sa première lettre, au chapitre 4, verset 18, un verset qu'on connaît bien, mais qui est très utile dans notre situation. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et là, on fait le lien avec la première partie de la prédication. L'amour nous fortifie et nous aide à faire face, sans être emporté par des craintes de toutes sortes. Je termine avec la question suivante. Voulons-nous faire de cette prière pour les Éphésiens une prière pour nous ? Voulons-nous être fortifiés intérieurement pour mieux suivre Jésus sur le chemin étroit et exigeant, et savoir faire face aussi aux diverses circonstances de la vie, sans être emportés par nos émotions ou par nos pensées ou par les discours ambiants ? Ça, c'est la question que nous est posée par le texte. Est-ce qu'on veut que cette prière soit pour nous ou pas ? Je rappelle cette phrase que je vous ai déjà dit, je crois, au moins une ou deux fois, et qui se trouvait dans Christosol aussi, il y a déjà plusieurs mois. C'est une phrase amiche, qui rejoint bien ce que j'essaie de dire ce matin. Ne prions pas pour des fardeaux moins lourds, prions pour des dos plus larges. Donc être fortifié intérieurement, c'est aussi avoir un dos plus large pour tenir le coup et porter les circonstances dans lesquelles on se trouve. Et donc cherchons auprès de Dieu la force intérieure pour suivre Jésus et être son disciple de mieux en mieux, pour tenir bon dans les temps difficiles en continuant à faire le bien. Dans cette époque compliquée, je dirais aussi que notre monde a besoin de témoins qui restent en paix au milieu des troubles et des tensions, et qui sont porteurs d'une parole de grâce et d'apaisement. Soyons de tels disciples et de tels témoins. Amen.